Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info. On a pas mal d'actualités à vous montrer et à évoquer ce soir. D'abord, on va parler du refus d'obtempérer parce que pour la première fois, il existe, a été en tout cas mise en ligne, une cartographie par le ministère de l'Intérieur, une cartographie du refus d'obtempérer en France. C'est très intéressant. On parlera aussi de ces deux hommes, Angela Ba, arrêtés dans le RER avec une carabine. Et puis, on reviendra sur ce qui s'est passé il y a 24 heures à Bordeaux. Le procureur a donné une conférence de presse et puis vous allez entendre le témoignage exclusif d'un policier qui intervenu hier soir. Tout de suite, il a pensé terrorisme.
On pense tout de suite à l'acte terroriste. Hein. On a plusieurs victimes par coup de couteau. On a un assaillant en fuite. Et vous pensez à ce que vous devez faire et aux actes que vous devez faire. Le shoot d'adrénaline vous permet à ça, de vous concentrer là-dessus, d'être hyper focus. Le ressenti de danger vient après en général, comme le ressenti d'avoir côtoyé la mort.
Vous entendrez dans un instant plusieurs extraits de ce témoignage. L'auteur des coups de couteau qui a été neutralisé par les policiers avait poignardé des hommes, dont un mortellement, parce qu'il buvait de l'alcool et ne respectait pas visiblement la fin du ramadan. C'est un point très important. Y a-t-il en France des fanatiques qui veulent faire régner sur le pays une sorte de police des mœurs? En tout cas, c'est le sentiment de Naïma Mfadel.
On se défend d'être communautariste, mais on l'a encouragé, notamment par toute cette politique de la ville où on a enclavé, mis dans les mêmes quartiers les mêmes personnes, créant aussi des comportements de mimétisme liés à soi-disant principes...
Le communautarisme conduit comme ça à une forme de séparatisme, à une police des mœurs.
Ça conduit en tout cas à un séparatisme dans la manière de vivre.
En tout cas, c'est l'un des grands sujets de la soirée sur lequel nous allons revenir. Mais je voulais retenir également ce soir cette punchline d'Emmanuel Macron qui évoque la nécessité de se placer en économie de guerre. Emmanuel Macron qui a posé la première pierre d'une usine de poudre d'obus à Bergerac.
Vous nous avez entendu parler de manière régulière, en effet, d'économie de guerre. Ma conviction, c'est que c'est une réalité de la géopolitique dans laquelle nous allons vivre durablement. Cette économie de guerre, elle est concrète. Elle se fait vite, elle se fait fort, elle se fait dans la durée et elle permet de relocaliser, d'accroître notre production et de créer des emplois.
Merci beaucoup.
Merci.
Bravo à tous et à toutes les équipes.
Et puis invité exceptionnel ce soir de Laurence Ferrari, le président de la Knesset, le Parlement israélien, Amir Ohana, a indiqué qu'il espérait que plus de la moitié des otages du 7 octobre étaient encore en vie.
Pour 133 otages que vous avez mentionnés, dont 3 sont français, le 7 octobre ne s'est jamais terminé. C'est une tragédie qui continue chaque jour et chaque heure. Nous savons que certains sont vivants et que d'autres sont morts. Nous pensons que plus de la moitié sont toujours vivants, pas bien plus que la moitié, non pas la grande majorité, mais en tout cas la majorité, c'est ce que nous pensons et nous opérons comme cela.
Voilà, plus de la moitié, c'est l'espérance du président du Parlement. Et je rappelle que 188 jours que les otages sont aux mains du Hamas. Et on a une pensée tous les soirs, vous le savez, pour les 3 franco-israéliens, Orion, Ofer et Oad, dont nous demandons évidemment la libération sans condition. Bonsoir Reda Bellage.
Bonsoir.
Porte-parole Unité de France. Bonsoir Yoann
Zahi.
On vous le disait dès hier soir, il y a, semble-t-il, bien un motif religieux à l'assassinat hier soir de Rachid. Rachid, c'est ce ressortissant algérien poignardé à mort à Bordeaux. Son camarade, qui lui aussi a été poignardé, s'en est sorti après avoir été opéré en urgence. La procureure a donné des détails très importants ce soir, et vous avez pu suivre en direct sur CNews sa conférence de presse. Voici quelques moments importants.
L'agresseur, qu'il ne connaissait pas, se serait approché de son ami, Rachid Bouhab, et s'en serait pris à lui avant de leur reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd. Le mis en cause, décrit comme porteur d'un camis et d'un kéfier couvrant son visage, ne laissant voir que ses yeux, frappait dans un premier temps les deux victimes à coups de poing, puis il s'éloignait. Ces dernières se relevaient, puis lançaient des canettes de bière en direction de leur agresseur, lequel revenait alors vers elles, sortait un couteau à cran d'arrêt et les poignardait tour à tour. Les autopsies des deux victimes ont été pratiquées dans la nuit. Il résulte de celle-ci que la première victime, M. Rachid Bouache, est à mettre sur le compte d'une mort violente résultant de 9 plaies par arme blanche, dont 4 pénétrant la paroi thoracique et le parenchyme pulmonaire, et parmi ces 4, 2 avec atteinte cardiaque. L'auteur est à ce jour en cours d'identification. Il serait d'origine afghane et âgé de 25 ans. Aucun élément ne milite en faveur d'une attaque à connotation terroriste. Toutefois, deux nouveaux éléments méritent d'être évoqués ce soir. Le premier, c'est un nouveau témoignage recueilli dans l'après-midi qui fait état d'une première altercation hier soir, juste avant les faits, suivie de violences entre l'assaillant et deux autres individus pour un motif a priori similaire. Ainsi, l'auteur aurait pris à partie deux individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd.
Bon, ça c'est très important, un mobile religieux peut-être à l'origine de cette attaque au couteau qui s'est terminée par la mort de Rachid, on l'a entendu, et puis le fait que l'assassin ait été neutralisé. Alors, la procureure a parlé de deux victimes, non, il n'y a pas deux victimes, il y a une victime, et puis un assassin, celui qui a porté les coups de couteau, qui a été neutralisé par les policiers.
Oui, et là encore, si vous voulez, c'est une personne, en l'occurrence une personne vraisemblablement d'origine afghane, qui pratique un islam rigoriste, voire plus que rigoriste, et qui a voulu imposer le style de vie qui est le sien, qui était le sien en Afghanistan, eh bien, à des ressortissants ou des personnes, en tout cas, qui se trouvaient sur le sol français. Je vous disais hier que nous vivions dans ce pays un conflit de civilisation, eh bien, nous avons à nouveau l'exemple de cela qui est flagrant aujourd'hui, qui est manifeste, qui est même incontestable. La civilisation que nous connaissons, nous, la nôtre, c'est-à-dire le mode de vie européen, nos mœurs, nos coutumes, qui font face à une civilisation qui est une civilisation, en l'occurrence celle de ce personnage, une civilisation un peu barbare, qui n'hésite pas à poignarder en pleine rue quelqu'un qui n'a pas la même manière que lui de pratiquer la religion, un islam extrêmement rigoriste.
Reda Bellage, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté sur le terrain?
Alors déjà, je veux dire bravo, bravo, un grand bravo aux collègues de la compagnie départementale d'intervention qui a fait preuve de sang-froid, qui a neutralisé incontestablement l'individu. Et s'il ne l'avait pas fait, je pense qu'il y aurait peut-être, à l'heure où on parle, d'autres victimes. Donc c'est important de le souligner parce qu'on focalise beaucoup sur l'auteur, mais je pense qu'il faut mettre en avant le travail des policiers.
C'est-à-dire que c'était possiblement le début d'un périple, mortel.
Bah, oui, puisqu'à partir du moment où, comme l'a dit la procureure, il y a eu des injonctions verbales, malgré la légitime défense, il a fait bien état de sa qualité de policier. L'individu, il avait le bras tendu avec le couteau, il me semble. C'est ce qui a été dit. Malgré ça, même face aux forces de l'ordre, il voulait quand même en découdre. Donc le collègue a fait usage.
Sur le mobile religieux, est-ce que vous l'avez constaté sur le terrain que, parce que là, on est dans un changement de civilisation.
Oui, alors c'est compliqué. Vous avez en France, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'une culture, ça se partage, une religion, ça se partage, mais ça ne s'impose pas. Donc maintenant, avec la violence, je l'avais déjà dit sur votre plateau, dans tous les domaines de droit commun, de délit ou de crime, on constate une recrudescence de violence. Parce que tirer avec une arme, c'est une chose. Mettre 9 coups de couteau, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'il y a déjà un acte, il y a une, on va dire que cet individu, il semblerait que ce soit un fanatique, qui est très radicalisé pour le coup. Maintenant, il y a un acte préparatoire, parce qu'il est quand même en plein centre-ville, avec un couteau à cran d'arrêt, et il s'attaque déjà à deux premières victimes.
C'est pour ça qu'il se pose la question de la piste terroriste, qui n'a pas été retenue, mais tout ce que vous avez décrit ressemble quand même à un acte terroriste. On va écouter un policier, vous avez juste rajouter quelque chose, Johan.
Non, parce que quand j'entends effectivement tout ce qui vient d'être dit, quand on voit le profil de cet individu, on ne peut pas s'empêcher qu'on a nous-mêmes créé les conditions de notre propre malheur, si vous voulez, parce qu'arrivent sur le territoire français, arrivent sur le territoire européen des personnes dont on sait très bien qu'elles peuvent potentiellement représenter un danger, parce que quand vous venez d'Afghanistan, il est difficile de contrôler ce que vous pensez, quelle vie vous avez eue avant, quelle persécution est-ce que vous avez éventuellement subi, et donc quel danger potentiel vous allez représenter pour la France. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous êtes là, que vous soyez accepté, que votre demande de droit d'asile soit acceptée ou non, vous restez quoi qu'il arrive en France, puisqu'on ne peut pas renvoyer en Afghanistan ces personnes-là, puisque ce pays représente un danger. Donc dans tous les cas, ces personnes vont rester ici.
Pour revenir sur les faits, ce qui a été également dit par la procureure ce soir, c'est que l'agresseur a été menaçant contre la police. Adrien Fontenot, pour le meilleur de l'info, a recueilli ce soir le témoignage de l'un des policiers qui appartenait à l'équipage de police qui est intervenu en quelques minutes, très rapidement. L'homme que vous allez entendre a pratiqué des massages cardiaques aux victimes. Premier extrait.
Avec mon équipage, on était en patrouille classique, hein, patrouille police secours, au niveau de la place Stalingrad, donc sur la rive droite de Bordeaux. Et là, on entend sur les ondes notre centre d'information et de commandement qui nous annonce un assaillant avec plusieurs victimes au couteau sur le miroir d'eau et un assaillant qui prend la fuite vers le pont de pierre. Donc, avec mon équipage, sans parler, hein, sans réfléchir, on décide tout de suite de s'engager sur l'intervention. On descend de notre véhicule et nos collègues CDI arrivent au contact de l'individu. Et là, on entend les détonations qui, pour nous, sont caractéristiques d'un usage d'armes à feu. Hein. Et donc, on voit en contrebas notre collègue et l'individu face à lui qui s'écroule à terre. Et on part en courant, tout mon équipage, vers cet endroit-là pour porter assistance à notre collègue. Et là, on s'occupe de geler la scène de crime, hein, de figer tout ça, d'évacuer les badauds parce qu'il commence à avoir un rassemblement sur les hauteurs, on est un peu en contrebas, sur les hauteurs du quai Salinière avec des individus qui commencent à être un peu hostiles en traitant la police d'assassin. Donc on check déjà la zone en vérifiant qu'il n'y ait pas d'explosif. On fait une palpation rapide sur l'individu qui est au sol pour voir qu'il n'y ait pas d'explosif sur lui. Et une fois qu'on s'est assuré de ça, avec mon collègue, on commence le massage cardiaque à deux, parce que c'est un acte très fatigant, le massage cardiaque, qui est vite épuisant pour les fonctionnaires. Et donc à deux, on se relaie chacun son tour, et on masse l'individu, et jusqu'à l'arrivée des pompiers du SAMU qui vont arriver 15 à 20 minutes après notre première intervention à nous.
Voilà, donc pour ce qui s'est passé, premier extrait de cet entretien, une chose que je remarque, il a dit tout de suite qu'il y a eu des individus hostiles.
Ah oui, non, mais à partir du moment où vous avez une partie de la classe politique qui nous diabolise, enfin qui diabolise les forces de l'ordre de manière générale, le premier réflexe, malheureusement, de certains individus, c'est de crier au loup quand ils voient des policiers, surtout quand ils font usage de leur arme de service.
C'est-à-dire que les gens qui sont là, et on a vu, on le dit depuis hier, c'est quand même un lieu de promenade, beaucoup de jeunes, c'est un lieu très, très, très populaire. Et, sans doute que les policiers ont empêché un périple oui. mortel. Et la première réaction, c'est que c'est salaud de flic.
Périple mortel. Le collègue, pour le coup, a eu les bons gestes, déjà d'essayer de sauver l'individu. Et puis le périmètre de sécurité, parce que on ne sait pas s'il y a un deuxième. Enfin, l'enquête nous dira. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, il va y avoir une enquête. On va évaluer, on va savoir si cet individu avait préparé son acte seul ou pas, si c'est un passage, s'il était fou ou pas fou, ouais. Parce que souvent on nous dit qu'ils sont fous. Mais bon, pour poignarder quelqu'un, je pense qu'il faut être pas stable psychologiquement. Maintenant, une enquête va être en cours, on va interroger ses proches, on va essayer de localiser son domicile, on va faire un maximum d'enquêtes, savoir comment il est arrivé en France, pourquoi il est arrivé en France, et s'il avait des réseaux internet, si c'est commandité ou pas.
Bon, sur le risque terroriste, c'est la première chose à laquelle on pense, nous a dit ce policier.
On pense tout de suite à l'acte terroriste. Hein. On a plusieurs victimes par coup de couteau. On a un assaillant en fuite avec un signalement où on nous parle d'une djellaba. Quand l'individu assaillant arrive au contact de nos collègues de la CDI, il est porteur d'un kéfi, il a le visage dissimulé. Donc voilà, nous on pense tout de suite à ça. Après, quand je vous dirai, c'est pas moi qui vais l'établir, hein, c'est l'enquête, la police judiciaire est saisie. C'est peut-être pas rien à voir avec un acte terroriste, mais nous, on pense tout de suite à ça parce que, ben, on sait que la France est menacée par tout ça, qu'on va rentrer dans une période avec les Jeux Olympiques où la France sera mise en avant et qu'on risque d'avoir ce genre de choses. Donc, effectivement, on est très, très, très sensibilisé à ça et l'intervention, elle doit être rapide. Pour éviter que, ben, si c'est un terroriste, qu'il y ait d'autres victimes, en fait.
Je vous rappelle qu'il n'y a pas de motif terroriste pour le moment, a dit la procureure de la République, mais les frais peuvent toujours être requalifiés et elle a aussi précisé qu'elle était en contact avec le parquet national antiterroriste.
Oui, l'enquête est en cours. On va établir le profil de l'individu. Je vais revenir sur ce que disait le collègue. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, un policier, un gendarme, tous les collègues qui font partie des forces de l'ordre, oui, on pense qu'à ça, en fait. Aujourd'hui, vous avez un dispositif qui s'appelle Voyager Protégé. Quand vous prenez le train, vous avez votre arme sur vous et votre brassard de police, vous craignez. Vous craignez parce qu'on constate tellement... au-delà des actes terroristes, déjà, on constate tellement d'actes de violence avec des armes blanches que, on s'y prépare, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut appuyer, il faut s'adapter à cette violence, il faut s'adapter à cette menace terroriste en formant encore plus les policiers, en créant cette routine d'intervention quand vous avez un assaillant qui s'attaque à des civils.
Troisième extrait, si vous voulez bien, sur la rapidité de l'intervention, même pas 5 minutes entre l'appel radio et l'arrivée des policiers.
La peur, vous l'occultez en fait, et vous pensez à ce que vous devez faire et aux actes que vous devez faire. Donc voilà, c'est le shoot d'adrénaline qui vous permet à ça, de vous concentrer là-dessus, d'être hyper focus. L'intervention de police entre le premier appel 17 qui annonce les coups de couteau et des victimes et la neutralisation de l'individu, il y a moins de 4 minutes. On aurait préféré l'interpeller, mais c'est comme ça, il n'a pas voulu se laisser faire et mon collègue a agi dans son droit et avec professionnalisme et sang-froid. Le ressenti de danger vient après en général, comme le ressenti d'avoir côtoyé la mort. On critique beaucoup la police, mais on est là, on sait ce qu'on a à faire et quand il faut le faire, on le fait.
Moins de 4 minutes, le sang-froid exceptionnel de cet équipage de police, il faut absolument le saluer et une préparation... impeccablement...
Arras, Birakem, maintenant Bordeaux, le dénominateur commun, c'est la rapidité d'intervention des policiers. Mmh. On se tue à le dire sur les plateaux, nous le job on le fait, mais il faut que derrière, il faut que les autres aussi, les autres ministères s'adaptent. Le travail au niveau de la police, il est fait.
Le mobile religieux, on a déjà posé la question, mais je voulais qu'on réécoute la procureure, c'est important parce qu'elle a donné un détail par la suite en répondant aux questions des journalistes.
On a un témoin qui indique que pour lui, il avait le sentiment, l'agresseur avait une attitude d'un musulman rigoriste. Mais c'est une impression, ça n'a été absolument pas, en tout cas nous n'avons pas rapporté la preuve à ce jour, voilà, de cet élément. L'identification, si elle est certaine, donc de l'auteur des faits, permettra sans doute d'en savoir davantage.
Bon voilà, il y a une autre histoire qui a inquiété les policiers, qui a provoqué aujourd'hui une grande pagaille dans le RER. Et vous m'avez alerté tout à l'heure là-dessus. Des policiers sont intervenus parce qu'un homme portait une carabine dans le RER sous sa djellaba. Au final, deux personnes ont été interpellées. Ça s'est passé à la gare de Villeparisis, Mitry-le-Neuf, en Seine-et-Marne. La carabine était non chargée et avait été aperçue à bord du RER B. Par ailleurs, l'homme était recherché par la justice et faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. Ce qu'il faut souligner, en fait, c'est que, et vous le disiez tout à l'heure, il faut être prêt à tout. Là, fort heureusement, carabine non chargée, etc. intervention rapide, hyper rapide.
Oui, les collègues de Paris Intramuros ont été avisés par appel radio. Il y a un dispositif qui a été mis en place par la BRF et les collègues, forcément, ça a créé des perturbations. Mais en fait, on a suivi la remontée de l'individu parce qu'il n'a pas pu être le train en question n'a pas pu être arrêté tout de suite. Et puis la brigade anticriminalité ainsi que les collègues de la BRF ont pu intervenir et puis interpeller l'individu.
Bon, ça crée là, une grosse pagaille sur le RER.
Oui, mais évidemment. Bon, là, la problématique, une fois de plus, c'est que vous faites face à un individu qui a une OQTF. Voilà, donc c'est encore un peu un dénominateur qui arrive malheureusement souvent quand vous faites l'objet d'une
OQTF. Bis repetita, toujours la même chose, toujours la même histoire.
On a l'impression que les individus, enfin, c'est pas plus que l'impression, c'est l'impunité, elle est à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que vous faites l'objet d'une OQTF, mais vous continuez à vous balader ou à commettre des délits de droit commun.
Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont eux-mêmes fait le lien entre une partie de l'immigration et une partie de la délinquance dans ce pays. Mmh. C'est incontestable, les chiffres le montrent, une grande partie de la classe politique, à part l'extrême gauche, fait ce constat-là. Il y a un lien entre l'immigration et une partie de la délinquance. Les chiffres du ministère, d'ailleurs, le prouvent également. Et il y a un paradoxe quand même à ne pas lutter contre l'immigration irrégulière quand on fait ce lien. si vous voulez, comment vous luttez contre l'insécurité et les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui si vous ne luttez pas contre l'immigration, encore une fois, irrégulière et que vous permettez à tout le monde d'entrer parce que nous n'avons pas les moyens de contrôler et nos frontières intérieures et nos frontières extérieures et que nous n'avons pas non plus les moyens, par-dessus tout, de raccompagner chez elles les personnes qui sont indésirables sur notre sol parce que les OQTF ne sont pas appliquées. Donc il est évident que lutter contre la délinquance dans ces circonstances-là paraît difficile.
OQTF, vous avez eu OQTF, mais quand même, vous allez dans le RER le lendemain d'une attaque comme on a connue, tout le monde a entendu parler à Bordeaux, Angela Bas avec une carabine, même si elle est non chargée dans le RER, ça ressemble à une provocation en réalité.
Oui, c'est une provocation.
On n'a pas le motif, on n'a pas l'objet.
J'en ai déjà parlé concernant le port d'armes. Aujourd'hui, vous avez le port d'armes catégorie D, couteau, c'est 1 an d'emprisonnement. C'est 15 000 euros d'amende. Ce n'est jamais...
Vous faites arrêter aujourd'hui. Moi, je prends un couteau, je me fais arrêter avec un couteau. Qu'est-ce qui m'arrive?
Jamais.
Rien. Mais rien.
Jamais.
Rien.
Même si vous êtes connu des services de police, vous n'irez pas en prison. Mais aujourd'hui, à un moment, il faut peut-être s'adapter à cette nouvelle forme de délinquance. On le voit, on fait les plateaux pour les RICS, on fait les plateaux pour les RICS devant les établissements scolaires, pour les agressions. À un moment, si vous réprimandez pas, les gars, ils vont continuer tout simplement à se balader avec des couteaux, puisqu'ils savent qu'ils ne risquent absolument rien.
Au passage, pour Bordeaux, on a parlé de RICS. Le terme exact, c'est pas une RICS. Non.
Bordeaux, c'est pas une RICS. Mais en attendant, l'individu, il sait que si jamais il se fait contrôler avec un couteau, au niveau pénal, il va pas avoir la même sanction que s'il se balade avec une arme de poing. C'est clair.
Face à ces dangers, question qui a été évoquée toute la journée également, faut-il armer les policiers municipaux? On vous le disait déjà hier, la police municipale n'est pas armée. Alors, bon, c'est pas la police municipale qui est intervenue à Bordeaux, mais celle de Bordeaux n'est pas armée. Et c'est un sujet qui aujourd'hui prend un autre relief, évidemment. Regardez ce qu'en dit aujourd'hui le maire de Bordeaux et sa majorité.
La police municipale, elle est armée, à Bordeaux comme ailleurs. Elle n'a pas d'armes létales, mais elle a des armes qui lui permettent de neutraliser des assaillants. Donc je ne laisserai pas dire que notre police municipale est désarmée, elle l'est.
L'armement létal de notre police municipale serait une erreur stratégique et une fuite en avant pour deux raisons majeures. Tout d'abord, elle viendrait consacrer le désengagement de l'État, de la police nationale, sans remédier au problème des Bordelais. En clair, moins de policiers nationaux dans nos rues, alors que nous nous battons à monsieur le maire pour en avoir plus. De plus, cela positionnerait toujours plus nos policiers municipaux en policiers nationaux de substitution, ce que nous ne voulons pas. C'est une police de proximité, une police du quotidien qui n'a pas besoin d'armement létal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'armement, elle a un armement.
Toutes les polices municipales ne sont pas logées à la même enseigne, c'est vrai. Certaines sont armées, d'autres non armées. Certains ont des pistolets à impulsion électrique, c'est tout, etc. Il y a différents régimes. C'est le choix d'abord, c'est le choix du maire.
Je pense qu'il faut respecter le choix du maire. Maintenant, je pense que le maire, il reste maire. Le policier municipal, le policier national, le gendarme ont identifié pareil. C'est-à-dire qu'un individu qui va être armé d'un couteau, il va nous foncer dessus parce qu'on sait que les forces de l'ordre sont des cibles pour ces gens-là.
Pendant les émeutes, on a fait appel aux policiers municipaux.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la déclaration, excusez-moi, elle est complètement lunaire en fait. Vous faites quoi avec un taser? Je pense que ce maire ne connaît, je respecte son choix, mais il ne connaît absolument rien. Il faudrait que ces gens-là viennent.
C'est pas qu'ils connaissent rien, c'est de l'idéologie pour ce maire.
Si vous avez là, dans ce cas-là, admettons, on a deux individus armés de couteaux. Le policier municipal, il fait quoi avec son taser? Il tire sur le premier. Pour le peu que ça touche pas et qu'on n'arrive pas à neutraliser, il fait quoi avec le deuxième? Rien, il ne peut pas intervenir. Donc à un moment, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on s'adapte à cette violence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes identifié en tant que force de l'ordre, vous devez normalement, je pense, en étant bien formé, régulièrement formé, être armé.
À Nice, on a pu stopper un attentat. La police municipale a pu stopper un attentat grâce à des armes. Et un policier municipal de Cannes me disait tout à l'heure, on est armé. Et non seulement on fait les tirs, le minimum de tirs, je crois que c'est 50 par an, mais on fait plus, on en fait 300. Parce que ça aussi, c'est une question. Il faut arriver à tirer des cartouches, à être entraîné. Donc eux, à Cannes, ils tirent 300 cartouches par an au lieu des 50 minimum. Mais c'est exemplaire. C'est un choix, encore une fois, idéologique.
C'est un choix qui est complètement idéologique. cette gauche, cette extrême gauche même, qui était avant opposée à l'installation de vidéosurveillance, qui maintenant y est arrivée, donc qui a toujours un temps de retard sur les questions de sécurité, qui est maintenant opposée depuis longtemps, hein, parce que la police municipale soit armée, mais il faut quand même bien se rendre compte que le niveau Vigipirate, le plan Vigipirate est au niveau alerte-attentat. Alerte, attentat. Donc nous sommes au niveau de vigilance maximale. Que feraient des policiers municipaux face à quelqu'un qui sortirait une Kalachnikov, un revolver, etc. Vous imaginez bien que pour utiliser un taser, il faut être à quelques mètres seulement de la personne ou du terroriste. Donc vous imaginez bien qu'utiliser un taser face à quelqu'un qui a une arme de poing, c'est absolument impossible.
Alors, ça veut dire pistolet à pulsion électrique. Car
donc d'abord, taser, moi, c'est une arme. Honnêtement, mais... si j'étais policier municipal, j'aurais peur de faire mon métier aujourd'hui sans avoir d'armes létales sur moi. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a l'inscription police sur soi, on est une cible privilégiée pour ces personnes-là.
Alors, un pistolet à impulsion électrique, c'est deux tirs. C'est deux tirs seulement.
Voilà. Et il faut être à une distance courte.
Une arme, comme vous en avez, je crois, c'est... Vous
écoutez,
avez
moi, j'ai eu la chance de faire des colonnes d'assaut avec des individus retranchés avec un couteau, où des fois, ben oui, ça arrive que ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on... On crée aussi au niveau de nos rangs ces situations anxiogènes. Plus ça va aller, plus les policiers, tant que certains partis politiques auront le même discours, les policiers aujourd'hui, ils ont peur de sortir leur arme de service. J'oublie, franchement, ils ont vraiment peur.
Et ça, ça arrive, je rappelle aussi, au moment des refus d'obtempérer. Il y a pour la première fois, le ministère de l'Intérieur a publié aujourd'hui une cartographie de la France des refus d'obtempérer. On va vous donner quelques chiffres. Il y a eu 25 700 refus en 2023. 25 700 refus d'obtempérer. Ça veut dire que il y en a 3 par heure. Si vous faites le calcul, ça fait 3 par heure. 97% sont commis par des hommes, donc quasiment la totalité. Et 75% des personnes mises en cause sont âgées de moins de 30 ans. Un commentaire, Isabella.
Écoutez... Le refus d'obtempérer, quelqu'un qui n'a pas de, qui est en défaut d'assurance, qui est porteur de produits stupéfiants et qui est en défaut de permis, il faut que les gens comprennent que s'il renverse un enfant ou il renverse une petite mamie qui n'a rien demandé, il ne s'arrêtera pas. Je pense qu'à un moment, pour que les gens comprennent, c'est pareil, il faut une réponse pénale ferme. C'est tout simplement par rapport à ça. Et pareil aussi.
Mais c'est quoi une réponse pénale ferme? C'est quoi? C'est des peines planchers?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des peines qui. Des peines, les peines, elles existent.
Alors c'est quoi? Refus d'obtempérer, vous prenez 3 ans ferme? C'est quoi?
Vous avez plus. Il me semble que c'est, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est 2 ans de prison. Après, on ne demande pas à ce qu'ils prennent 2 ans. On peut faire des mesures préventives s'il faut faire des mesures préventives. Mais quand vous reprenez, même si c'est un drame, l'affaire Naël, qui se fait arrêter quelques jours auparavant, et qui fait une garde à vue pour déjà un défaut de permis. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Pour que les gens comprennent, il faut qu'ils sachent qu'il y a une répression derrière.
Bon, je crois qu'on avait la carte précisément de l'endroit où il y avait les principaux points de refus d'obtempérer, les 10 départements les plus touchés, à votre avis, numéro 1. Alors, Martinique, Guadeloupe et Guyane sont dans le top 5. Et Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, Reda, est numéro 3. Puis on retrouve, bon, vous avez vu, c'était rapide. Même moi, je n'ai pas tout vu, mais c'est pas grave. Voilà, les Pyrénées, la Corse du Sud, les Bouches-du-Rhône, l'Eure-et-Loire. Bon, ça, ce sont les 10 premiers. Vous connaissez ce classement? Je crois que c'est vraiment.
Non, je connaissais pas le classement. Je peux vous dire que sur le terrain, on l'a vu encore récemment avec le refus d'obtempérer à la Courneuve. On a vu aussi LFI parler de refus d'obtempérer en inversant complètement les rôles, en parlant de condamnation à mort, sauf erreur de ma part. Moi, je trouve que ces propos, ils sont complètement scandaleux. À un moment, si vous voulez que ça s'arrête, il faut laisser la police faire son travail. Voilà, tout simplement. Et s'il n'y a pas de réponse pénale envers ces individus, ben, ils vont tout simplement continuer à rouler sans permis ou à continuer à faire des délits de fuite et des refus d'obtempérer.
Vous savez, ce qui serait intéressant, c'est qu'on pose la question à un élu de gauche là-dessus. Voilà. Et dans un instant, on sera en duplex avec le candidat du Parti communiste qui se présente pour les européennes.
Tête de liste.
Ouais, Léon Desfontaines, qui sera avec nous en duplex. Il tenait son premier grand meeting, c'était à Amiens, dans la Saône. Mais il sera avec nous en direct. On va lui demander d'abord comment ça s'est passé, parce qu'on est des gens polis. Et puis on a 2-3 questions à lui poser également. Allez, à tout de suite. Encore une décision qui concerne le travail de la police, et j'espère qu'on pourra être, qui concerne aussi l'Europe. J'espère qu'on pourra être avec Léon Desfontaines d'ici quelques minutes. C'est le pacte sur la migration et l'asile qui a été adopté au Parlement. Donc c'est un pacte qui doit permettre à l'Europe de gérer mieux les flux migratoires. Les points les plus importants, le point le plus important, sans doute la création de centres de rétention en dehors de la zone euro pour des demandeurs qui ne sont pas prioritaires ou qui ont peu de chances de voir leur demande aboutir. Il y aura de grands centres, si j'ai bien compris, qui vont gérer les demandes. Durée maximale du traitement de ces demandes, 6 mois. Et puis l'autre point important, c'est la répartition en Europe des migrants. Ouais. 30 000 répartis dans tous les pays pour aider les pays qui sont en première ligne, en quelque sorte, l'Italie ou la Grèce. Attention, il y aura des amendes pour les demandeurs qui ne sont pas accueillis. C'est ça, j'ai à peu près résumé les choses. Est-ce que ce texte peut changer d'abord le travail des policiers?
Écoutez, nous, on est toujours preneurs de tout outil supplémentaire qu'on peut avoir, parce que vous avez, comme vous l'avez, je pense, sous-entendu tout à l'heure, vous avez toujours des gens qui arrivent déjà à passer entre les mailles du filet, si je puis dire. Et je pense que plus on arrivera à contrôler nos flux migratoires, plus on pourra contrôler protéger les gens, les résidents et les Français.
Parce que vous dites aujourd'hui, contrôler les flux, c'est protéger les Français.
Bah oui, parce que malheureusement, vous avez des gens qui ont vraiment une situation très compliquée dans leur pays, et puis vous avez des gens qui vont profiter des flux migratoires pour essayer, du fait de leur nationalité, d'essayer de profiter peut-être pour commettre un acte terroriste en France, tout simplement. Donc nous, il nous faut des moyens pour pouvoir contrôler, que ce soit en termes de renseignement intérieur ou que ce soit pour les unités de voie publique, de pouvoir contrôler ces individus.
Bon, on va écouter Jordan Bardella. Il était hier dans l'émission de Christine Kelly. Il a réagi à l'adoption du texte. Il estime que ça ne va rien changer du tout.
C'est effectivement un pacte qui va être efficace dans le sens de plus d'immigration. Ce texte, il était soutenu depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années par Emmanuel Macron et par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et les Français doivent retenir de ces longues heures de débats parlementaires que ce texte prévoit la répartition obligatoire des migrants qui vont franchir les portes de l'Union européenne dans nos communes, dans les communes des États membres, dans nos villes, dans nos villages. Et pour les États membres qui refusent cette répartition obligatoire de migrants, il y aura des sanctions financières qui iront jusqu'à 20 000 euros par migrant, que donc les Français, l'impôt du contribuable, devra donc financer.
Bon, ça c'est la version de Jordan Bardella. Gabriel Attal dit c'est un changement, c'est un événement important. Et si j'en crois la candidate du parti de Emmanuel Macron, d'ici 2 ans, grâce à ce texte, Lampedusa c'est terminé.
Elle a même dit, Valérie Ayer, dans 2 ans il n'y aura plus d'immigration irrégulière. Alors je crains que ce texte ne permette pas de mettre fin à l'immigration irrégulière. Effectivement, étudier les demandes d'asile à l'extérieur des frontières européennes, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, naturellement, qu'il y ait des centres de rétention dans des pays tiers, à l'extérieur de nos frontières, d'accord. Mais est-ce que vous pensez que ça va mettre fin à l'immigration irrégulière? Est-ce que vous pensez que, compte tenu de la situation, de ce que vivent ces gens dans leur pays, vous pensez qu'ils vont refuser du jour au lendemain à se rendre en Europe, dans des pays riches qu'ils considèrent être comme un Eldorado parce que la France est, il est vrai, assez généreuse vis-à-vis d'eux? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils vont toujours continuer à venir. Et comme nos frontières ne sont pas surveillées, ou pour ainsi dire très très peu surveillées, eh bien je crains que ce texte ne change pas grand-chose en réalité.
Bon, en fait, la grande question qu'on se pose, parce qu'on fait le lien avec tous les événements, c'est est-ce que ce texte, par exemple, aurait pu empêcher ce qui s'est passé à Annecy il y a quelques temps, les coups de couteau, encore une fois, dramatique.
Est-ce que ça aurait pu... L'immigration irrégulière, l'immigration irrégulière, tant qu'il n'y aura pas une maîtrise parfaite des frontières, à supposer que ce soit possible, eh bien, tant que nos frontières continueront à être une passoire, l'immigration irrégulière ne s'arrêtera pas. Ça n'est pas avec un texte que nous allons arrêter, mettre fin à l'immigration irrégulière. Pourquoi est-ce que ce texte a nécessité 3 ans de négociation? Parce que c'est l'Italie qui se plaignait de recevoir des migrants. Le texte Dublin 3 prévoit en réalité que la demande d'asile soit faite dans le premier pays où arrive le migrant. Donc c'était souvent l'Italie qui ne peut pas assumer seule de gérer tous ces migrants. Donc ils seront maintenant effectivement répartis de manière bien précise dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est avant tout pour cela que ce texte il est né au sein de l'Union européenne.
Bonsoir Léon Desfontaines. Vous êtes en direct avec nous depuis Amiens, depuis la Somme. Ah, je vous vois, ça y est. Tête de liste communiste de la gauche unie pour les élections européennes. C'est vrai qu'on aimerait que vous réagissiez à ce texte. Mais avant ça, d'abord, c'était votre premier grand meeting ce soir. Donc ça s'est bien passé ?
Tout à fait, ça s'est très bien passé. La salle était remplie. Et d'ailleurs, c'est le premier grand meeting en dehors d'une grande métropole. Et pour moi, ça me tenait à cœur parce que ce département, c'est celui dans lequel j'ai grandi. Et surtout, c'est un département qui a été victime par des politiques libérales européennes. Et tout ça s'est très bien passé. Enfin, la gauche du non au traité constitutionnel européen, la gauche du travail, elle est de retour.
Bon, la gauche du travail, c'est semble-t-il pas la gauche du PS. J'ai bien vu que vous aviez des différences avec le candidat pour les européennes au PS. Vous lui reprochez notamment de voter des accords de libre-échange qui ne vont pas protéger les agriculteurs, les travailleurs français, les ouvriers évidemment. Mais ça ressemble à un discours pour une préférence nationale, si je lis bien entre les lignes.
Ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a favorisé en tout cas la mise en concurrence entre les travailleurs. Et moi, cette Europe-là, je n'en veux pas, mais les Français non plus d'ailleurs n'en veulent pas. Mais aujourd'hui, ce que je reproche notamment à M. Glucksmann, c'est que son groupe au Parlement européen a voté pour le retour des règles austéritaires européennes et notamment les annonces d'économie de Bruno Le Maire de casse des services publics. Et moi, je le dis, on ne peut pas se revendiquer de gauche et soutenir un groupe qui vote pour la fermeture des services publics. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me présente à cette élection européenne, pour retrouver justement cette gauche du travail, cette gauche qui défend les services publics, cette gauche qui défend la réindustrialisation de nos territoires et notre souveraineté alimentaire. Et oui, j'ai pas peur de le dire, il va falloir produire davantage sur le territoire national, territoire européen, pour pouvoir répondre aux immenses défis qui nous font face.
Mais vous n'allez pas jusqu'à dire préférence nationale, c'est un gros mot.
Mais la question n'est pas de préférence nationale ou pas, la question est comment on permet à notre pays de reprendre la main sur les décisions qui sont prises, comment on permet de retrouver notre souveraineté en matière industrielle, en matière alimentaire, comment on défend cette souveraineté-là. Et ça, c'est des questions qui se posent directement au Parlement européen et c'est des combats que je veux prendre à bras le corps.
Il y a un instant, on parlait du pacte sur la migration et l'asile. Ça, c'est un grand texte qui a été adopté au Parlement. On a entendu le candidat Jordan Bardella dire que ça servait à rien. On a entendu Gabriel Attal dire au contraire, c'est un grand pas. Question de Johan Usaï.
Oui, Léon Desfontaines, on sait que tous les sondages disent aujourd'hui et montrent que 7 à 8 Français sur 10 veulent moins d'immigration en France. Est-ce que malgré cela, vous pensez, comme le prévoit ce pacte asile et immigration, que la répartition des migrants au sein de l'Union européenne est donc en France est une bonne chose? Est-ce que vous pensez qu'il faut donc aller contre la volonté des Français et répartir ces migrants dans les villes et les villages français?
Aujourd'hui, je pense que le pacte asile-immigration ne répond pas aux problèmes fondamentaux. Moi, je fais partie d'une liste qui dit qu'on voit deux camps s'opposer aujourd'hui. Ceux qui nous disent qu'il faut zéro immigration, eh bien, ceux-là, je le dis, ce sont des menteurs. On voit Giorgia Meloni en Italie, à l'extrême droite, qui avait dit, qui a été élue sur un blocus maritime et zéro immigration, qui vient régulariser plusieurs centaines de milliers d'immigrés. Mais je fais partie aussi de ceux qui disent qu'un État a des frontières, sauf preuve du contraire. D'ailleurs, un État sans frontières, ça n'existe pas. Les frontières, elles sont là, certes, pour les personnes, mais aussi pour réguler les capitaux et les marchandises. Et la question fondamentale qu'on doit tous se poser, c'est la question de l'inclusion. Comment on permet de mettre les moyens, notamment pour permettre à ce que l'ensemble de celles et ceux qui produisent les richesses de notre pays puissent être pleinement inclus dans notre société, notamment du coup en régularisant les travailleurs sans papier. Moi, je propose cette mesure-là. Je propose aussi qu'on développe des services publics permettant à chacune et chacun, celles et ceux qui fuient la guerre, la misère, de pouvoir être pleinement inclus dans notre société. Et enfin, la question fondamentale qui n'est jamais posée lorsqu'on parle d'immigration, c'est la question de la coopération. Comment on permet justement d'éviter que des personnes soient arrachées de leur pays comme c'est le cas actuellement? Je prends souvent l'exemple du Niger qui a un taux d'électrification à 17%. Comment voulez-vous permettre à ce que les Nigériens restent sur leur territoire si justement ils n'ont pas accès à l'électricité, pas accès à une formation, pas accès à des universités? Engageons de nouveaux rapports avec l'espace méditerranéen, avec l'Afrique subsaharienne, engageant de nouvelles coopérations.
Léon Desfontaines va terminer là-dessus, mais sur ce plateau, il y a Reda Bella qui est policier, qui il y a un instant nous disait, lorsqu'on parlait de ce traité qui a été voté, disait c'est important quand même le contrôle de ceux qui rentrent, parce que c'est la sécurité des Français. D'ailleurs, je ne vous ai pas vu réagir ni sur vos réseaux, ni publiquement sur ce qui s'était passé à Bordeaux. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose dans notre vivre ensemble et qui ne fonctionne plus. Alors, vous n'avez pas parlé ce soir de décivilisation, mais il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de remettre le vivre ensemble au centre du débat. Moi, je partage totalement cette ambition-là. Et à mesure que l'école républicaine, à mesure que les services publics ont reculé, bien, on a vu naître, notamment dans nos quartiers populaires, des formes de communautarisme. Et la nature a horreur du vide. Lorsque la République recule parce que les services publics reculent, alors d'autres choses prennent leur place. Moi, je le dis, c'est important de réaffirmer avec force l'école républicaine. Je tiens à saluer le travail plein et entier de l'ensemble de nos fonctionnaires, bien sûr des forces de l'ordre, mais aussi de nos enseignants qui permettent de recréer du lien et de recréer du tissu social dans notre société.
Là, vous êtes parti dans un tunnel. Mais le cas de Bordeaux, c'est pas l'école républicaine. Tout le monde le sait.
Ah, tout à fait. Totalement. Ah, mais ça, je partage totalement. Et bien évidemment, l'école ne fera pas tout. Et pour le cas de Bordeaux, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la justice doit bien évidemment faire son travail, permettre de mettre les réponses à ce qui s'est passé, à ce drame. Et moi, je tiens à apporter bien évidemment tout mon soutien, toute ma solidarité à l'ensemble des victimes de ce drame horrible.
Et les policiers ? Oui ? Non ?
Et aux policiers, bien évidemment. Et aux policiers, d'ailleurs, qui ont malheureusement trop peu de moyens pour pouvoir exercer pleinement leur mission. Et je le dis, ils font un métier exceptionnel. Et compte tenu des moyens qu'ils ont, comme d'ailleurs l'ensemble des fonctionnaires, eh bien, ils font un travail exceptionnel. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est valoriser leur travail, valoriser leur métier de manière, bien sûr, salariale, mais aussi leur offrir de meilleures conditions de travail avec davantage d'agents, notamment sur le terrain. C'est une mesure que nous portons. Mais pour cela, bien évidemment, il faut remettre en cause les règles budgétaires européennes qui empêchent tout investissement dans les services publics.
Bon, bah, on vous entendu. Merci beaucoup. Merci Olivier Gangloff qui a permis de ce duplex. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci à Maxime Le Guay également. Reda Bellage, tous les élus de gauche, les représentants de la gauche ne sont pas contre la police. Vous l'avez entendu. Important. Alors, c'est important ce qu'ils ont dit. Attention.
Moi, ce qui me dérange, c'est ceux de la LFI qui creusent encore plus l'écart avec certains jeunes et donnent une image et diabolisent complètement. Dans le cadre d'un refus d'obtempérer avec un accident où le procureur a fait un communiqué de presse, non, ça suffit pas.
Il faut dire quand même très rapidement que le Parti communiste se différencie nettement de la France insoumise. Le Parti communiste tient un discours qui est tout à fait républicain, ça c'est incontestable. Il n'y a pas de comparaison possible avec la France insoumise qui est complètement en dehors du champ républicain désormais.
Eh ben on les salue. Merci beaucoup, Johan. Merci Reda Bellage d'avoir été avec nous. C'est la fin du meilleur de l'info. Maureen Vidal va vous rejoindre pour le 22h. Soir Info, Julien Pasquet dans un instant. Je remercie Valérie Acquin qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve lundi soir, sans vous Johan. Week-end
à mardi.
Bon, mais à mardi. Allez, bye bye.